Voilà, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux d'être avec vous cet après-midi, Liliane et moi-même. Nous avons fait notre culte ce matin à Versailles, donc on est pasteur aussi à Versailles. Et nous sommes heureux de servir à nouveau le Seigneur cet après-midi parmi vous, tout simplement en ouvrant sa parole. C'est la journée du sel ici dans votre église. Et comme j'ai écrit donc l'article ou le message dans le dossier cette année, donc Philippe, votre pasteur, a eu la bonne idée de m'inviter. Donc, et avec plaisir, j'ai répondu à cet appel. Et c'est bien que le culte ait lieu l'après-midi. Ça m'a permis d'être donc à Versailles ce matin. Aimer les plus pauvres, une question de justice. La première question qu'on peut se poser, mais c'est qui le pauvre ou les pauvres? Il y a deux façons de répondre à cette question. Effectivement, la première, le pauvre, c'est le miséreux, celui qui est démuni, qui n'a pas de quoi vivre et qui est dans l'extrême précarité matérielle. Et il y en a beaucoup en France. Pratiquement 8 millions de personnes en France sont considérés comme pauvres matériellement. Pour un pays industrialisé et parmi les pays les plus riches, c'est beaucoup, puisque la richesse est là. C'est la première façon de comprendre ce mot pauvre. Il y a une deuxième façon de le comprendre, c'est la pauvreté spirituelle. Et dans ce cas, nous tous, nous sommes pauvres spirituellement. Pour nous qui avons rencontré le Seigneur Jésus, il a enrichi notre vie de sa présence, du pardon qu'il nous a accordé, de la réconciliation avec Dieu que nous avons obtenue grâce à lui, de l'espérance vivante qu'il a mise dans notre cœur. Nous sommes devenus riches, pauvres, que nous étions avant de le connaître. Mais disons-nous bien que dans notre monde, dans notre société, il y a des êtres humains qui cumulent les deux, pauvreté spirituelle et pauvreté matérielle. Et nous sommes appelés, nous, qui avons connu le Seigneur, à nous, qu'il a fait justice en Jésus-Christ, à aimer ces personnes, qu'ils soient pauvres spirituellement ou pauvres matériellement. Parce que le Dieu que nous avons connu et que nous servons est un Dieu juste. C'est ce que nous lisons dans le psaume 119, verset 137. « Tu es juste, ô Éternel. Ta parole est fondée sur ta justice et tu la tiens avec fidélité. » Ce Dieu qui s'est révélé à nous en Jésus-Christ est un Dieu juste qui s'est fait justice en Christ parce que le péché de l'humanité, nos péchés, l'ont profondément blessé. En Jésus-Christ, il nous a aussi fait justice parce que le péché nous a aussi abîmés, blessés, abîmés. Christ est notre justice. Comment Dieu nous a-t-il fait justice? En déployant son grand amour pour nous. Voilà pourquoi aimer le pauvre, aimer chacun, est une question de justice. Dieu nous a fait justice par le grand amour qu'il nous a témoigné en Jésus-Christ. Voyez, quel amour le Père nous a témoigné, dit l'apôtre Jean, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Ce que nous sommes n'a pas encore été révélé, mais lorsque cela sera révélé, nous le verrons tel qu'il est, nous serons semblables à lui. 1 Jean chapitre 3, versets 1 à 3. Cet après-midi, j'aimerais réfléchir avec vous à un homme qui a en fin de compte, cumuler les deux, la pauvreté spirituelle et la pauvreté matérielle. Et un jour, cet homme a croisé le chemin de Jésus. Et Jésus va transformer sa vie, va le réhabiliter, va donner un sens à sa vie. Jésus va enrichir sa vie. Il s'agit d'un lépreux. Et son histoire nous est racontée par les trois évangiles qu'on appelle synoptiques, Matthieu, Marc et Luc. Matthieu chapitre 8, versets 1 à 4, Marc 1, 41 à 45 et Luc 5, 12 à 16. Un événement extraordinaire s'est passé dans la vie de ce pauvre parce qu'il a croisé le chemin de celui qui est la justice de Dieu, Jésus-Christ. J'ai choisi donc, non pas de lire dans les trois évangiles, mais le texte de Marc. Marc, chapitre 1er, versets 40 à 45. Un lépreux vint à lui, et se jetant à ses genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main et le toucha, et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta, et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations, et lui dit, « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur, et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans des lieux déserts, où l'on venait à lui de toutes parts. Aimer. Telle est notre vie en tant que chrétien. Parce que nous sommes nés de l'amour du Père manifesté en Christ. Comme je le dis, nous étions pauvres parce que nous étions éloignés de Dieu. Paul ira même plus loin. Il dira, nous étions morts par nos offenses, Éphésiens chapitre 2, verset 1. Mais Christ nous a rendus à la vie. Vous et moi qui connaissons le Seigneur, à qui il a fait justice, nous sommes nés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes des enfants de la croix du Christ. De plus, Dieu a répandu son amour dans notre cœur par le Saint-Esprit, dit l'apôtre Paul en Romains chapitre 5. Nous portons en nous l'amour de Dieu. Non seulement nous sommes des enfants de l'amour, mais nous portons cet amour de Dieu, l'amour avec lequel il nous a aimés pleinement en Jésus-Christ. La parole de Dieu ira même encore plus loin, nous exhortant à aimer, parce que nous avons l'amour du Christ en nous, à aimer même nos ennemis. Et c'est là la spécificité, je dirais exclusive, de la foi chrétienne. Aimer même l'ennemi. Aimer, c'est vivre la vie de Christ. C'est vivre la nouvelle vie en Jésus-Christ dans notre réalité d'aujourd'hui. Et Jésus nous donne l'exemple ici, dans ce récit que nous venons de lire. Il est venu pour aimer. Et son amour le conduira jusqu'à la croix, jusqu'au don de sa vie. Mais tout au long de son ministère, avant la croix, il a dit des paroles, exhortant à l'amour, mais il a aussi fait des gestes, prouvant son amour pour les uns et pour les autres. Il nous donne l'exemple. C'est pas quelqu'un qui nous dit « Aimez-vous les uns les autres et à ceux-ci ils connaîtront que vous êtes mes disciples » sans avoir lui-même, auparavant, montré ce qu'est l'amour pleinement. Ce récit, à mon avis, était une annonce, ce geste de Jésus, une annonce de la croix déjà où il allait descendre dans les profondeurs de nos péchés. Jésus rencontre ce lépreux. Qui est le lépreux ? Il est pauvre. Il est pauvre matériellement. Il est malade. Et à l'époque, les lépreux étaient mis en quarantaine, exclus de la société. On ne devait pas avoir de contact avec eux. D'ailleurs, Marc nous dit ici que ce lépreux guéri est allé publier son histoire un peu partout, au point que Jésus ne pouvait plus rentrer dans la ville. Luc le dit aussi. Matthieu ne le dit pas. Nous verrons tout à l'heure pourquoi. Le lépreux était un pauvre, isolé, malade, quelquefois rebutant. Il ne devait pas avoir de contact avec les autres. Il était aussi pauvre spirituellement, en plus de sa maladie, de son isolement social. Un homme qui souffrait, un homme rejeté par la société de son époque. Les évangiles ne nous disent pas quel était le degré de la lèpre, mais en tout cas, il a osé se mêler à la foule. Il est venu à la rencontre de Jésus, lui le pauvre, et justice lui sera faite par le Seigneur. J'aimerais vous proposer trois expressions coûteuses de l'amour à travers ce récit. On peut dire beaucoup de choses à partir de ces versets, mais je vais me limiter à ces trois expressions. Trois expressions coûteuses. L'amour peut coûter. L'amour de Dieu lui a coûté cher, la vie de son Fils. La première expression, c'est un engagement avec le cœur. Le texte nous dit que Jésus, ému de compassion, il est remué au plus profond de lui-même. Son cœur bat. En écoutant et en voyant cet homme, vous savez, on peut faire beaucoup de choses, des choses qui sont à notre portée, des choses que nous aimons bien, des choses qui nous sont imposées de faire, même si on ne les aime pas, on peut faire beaucoup de choses. Mais il y a une différence quand on fait une action avec le cœur. Ce sont les profondeurs de l'être qui parlent, qui sont remuées, interpellées, et qui poussent ou qui amènent à une action concrète. Tel fut le cas de Jésus ici, ému de compassion pour cet homme. Ce rejeté, l'exclu, le clochard, celui qu'on ne pouvait pas voir et avec lequel on ne pouvait pas rester. Jésus est touché par sa situation au plus profond de lui-même. Parce qu'il est touché, qu'est-ce qu'il va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Jésus va l'accueillir, lui le rejeter. Jésus va l'écouter, lui celui qui n'était pas entendu et qu'on ne voulait pas approcher. Jésus va l'écouter en lui accordant de l'importance. Jésus va lui consacrer du temps à rester là et à dialoguer avec lui. Parce qu'il est ému de compassion. Oui, nous pouvons faire des actions, quelquefois de manière machinale ou entrer dans un projet. Mais comment le faisons-nous ? Sommes-nous touchés par la situation de ces millions de personnes qui n'ont pas de quoi vivre aujourd'hui ? Et moi, je suis persuadé que les crises que nous vivons aujourd'hui, dans peu de temps, amèneront beaucoup de personnes dans la précarité, dans la pauvreté. Quel est le regard de l'Église et du chrétien sur les situations que nous vivons et sur les personnes qui nous entourent et qui sont dans la détresse matérielle et spirituelle? Aurons-nous un peu de temps dans notre agenda juste pour s'arrêter un instant, pour leur accorder un peu d'importance? Je ne sais pas comment vous vivez la situation entre la Russie et l'Ukraine, pour prendre cet exemple, mais quelquefois j'ai mal au plus profond de moi quand je vois toutes ces personnes avec deux petites valises, obligées de quitter leur pays, leur maison, tout ce qu'ils ont construit, et jeter sur les routes ou allant dans d'autres pays pour se protéger tout simplement. Quelle misère, quelle détresse. Comment aimer ces personnes? Comment être touché par leur situation? D'abord en étant ému. Oui, me direz-vous, on ne peut pas sauver le monde entier, je suis d'accord, nous sommes limités. Mais Luc, en rapportant la même scène, dit ceci: après avoir purifié le lépreux, Jésus se retirait dans le désert pour prier. Pour prier. Et je pense que là, c'est un premier geste d'amour. Touché au plus profond de nous-mêmes par la situation des plus pauvres, l'une des premières actions que nous pouvons faire là où nous sommes, c'est la prière. Prier. Nous avons ouvert depuis le début de ce conflit concernant l'Ukraine une soirée de prière tous les jeudis soirs en ligne pour prier, non seulement pour l'Ukraine, la Russie, mais aussi pour d'autres situations dans le monde. Et il y a toujours quelques chrétiens qui se connectent pour prier ensemble pendant une heure pour cette situation. Ça, nous pouvons le faire librement là où nous sommes. Aimer celui qui nous dérange en priant pour eux, là où nous sommes, c'est une façon de l'aimer, de les aimer avec le cœur déjà. Et puis, la deuxième expression que j'ai notée ici, c'est un engagement concret malgré le risque. Au-delà des bonnes intentions, et encore plus que la simple prière, même si elle est importante, la prière, Jésus va s'engager concrètement envers cet homme. Il a pris le temps de l'écouter, de l'accueillir, de l'écouter, de lui consacrer du temps, d'être remué au plus profond de lui-même. Là, Jésus va agir. Les trois évangélistes nous disent que Jésus toucha le lépreux. « Tu peux me rendre pur, si tu le veux. » Autrement dit, « Aide-moi. Je suis désemparé. Je reconnais ta puissance, ton autorité. Tu peux me rendre pur, si tu le veux. Tu peux me rendre la vie, tout simplement. Pour qu'elle soit agréable et que je profite de cette vie pleinement. » Tu peux le faire parce que tu es le Fils de Dieu. Je le sais. Et Jésus va lui dire, en le touchant, « Je le veux. » Là, il y a un risque. Parce que le Lévitique nous dit que celui qui était lépreux était contagieux. On ne sait pas quel était le degré de contagion de ce lépreux, mais en général, on évitait d'approcher les lépreux, de les toucher, d'avoir contact avec eux pour ne pas être contaminé soi-même. Et Jésus prend le risque de le toucher. Il le touche au risque d'être contaminé humainement. Et moi, je pense que c'est pour cela que Luc et Marc nous disent que Jésus, après cela, se tenait à l'écart de la ville. Malgré tout, les gens venaient à lui. Marc, en tout cas, est très clair. Il dit de sorte que Jésus, parce qu'il a été divulgué sa guérison et que Jésus l'avait touché, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il a pris le risque, en touchant le lépreux, d'être contaminé lui-même. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait, Jésus, à la croix, à cause de nos péchés. Il a touché au plus près nos péchés. Il est descendu dans les profondeurs de notre misère spirituelle et dans la misère de toute l'humanité. Il a touché nos péchés au point de dire à son Père, « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ou même avant ces paroles, « Si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, je serais bien content. Toutefois, je veux faire ta volonté. » Là, Gethsémané, le pressoir à huile où il a été pressé à cause de notre misère et de notre pauvreté. Jésus a aimé concrètement. Aimer sans que cela nous coûte est sans doute très facile. Mais quand nous sommes émus au plus profond de notre être, quelquefois, l'action peut coûter cher. Aimer peut nous coûter cher. Et sommes-nous prêts à aller dans cette voie de l'amour? En fin de compte, dans le sillage du Christ qui nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous. Le Seigneur ne nous demande pas de donner notre vie sur une croix, mais quelquefois l'engagement. L'engagement par amour peut coûter cher. L'histoire de l'Église est là pour nous le rappeler. Tant d'hommes et de femmes, à cause de leur amour pour Dieu et de l'amour parce qu'ils aiment Dieu, pour les autres, ont payé de leur vie. Ont payé de leur vie. Je pourrais vous raconter des dizaines et des dizaines d'exemples. Et celui qui me vient à l'esprit, c'est celui de Betty, Stam, qui entrait avec son mari des États-Unis vers la Chine pour prêcher l'Évangile dans les années 1930. Les deux, John et Betty, avec leur petite fille qu'ils vont laisser orpheline, vont payer de leur vie, tout simplement parce qu'ils voulaient témoigner de leur amour. L'amour de l'Évangile pour les personnes vers lesquelles le Seigneur les avait envoyées. Est-ce que notre façon de vivre, notre vie chrétienne, notre foi nous coûte quelque chose? Ou sommes-nous sur une voie tranquille? La voie tranquille, c'est la voie sans engagement qui coûte. Oui, aimer, quelquefois, peut nous coûter et peut coûter cher. Mais sommes-nous prêts à aimer comme Dieu nous a aimés en Jésus-Christ? Aimer au sein de l'Église, déjà, peut-être celui qui est là avec nous, qui est différent que nous, qui n'a pas le même niveau social que nous, qui n'a pas le même niveau intellectuel que nous. L'aimer, descendre à son niveau peut-être, pour l'élever, pour le considérer et lui donner la valeur que le Christ lui donne. Sommes-nous prêts à cette démarche au sein même de notre communauté? Aimez-vous les uns les autres, et à ceux-ci connaîtront que vous êtes vraiment mes disciples. Troisième réflexion, c'est l'engagement de l'accompagnement. Après le geste qui coûte, qui, dans certains cas, comme je l'ai dit, peut même coûter la vie, Jésus accompagne ce lépreux. Il lui donne des recommandations. D'abord, celle du silence. Ne va pas le raconter, garde ça pour toi. Malheureusement, cet homme est parti raconter son histoire. Qu'aurions-nous fait à sa place? Un lépreux qui n'a pas de vie sociale, qui n'est pas considéré, qui est malade, qui doit porter le poids de la maladie et qui est rejeté, voilà qu'il est purifié parce qu'il était considéré comme impur. Moi, à sa place, franchement, je serais parti comme lui raconter mon histoire. Soyons honnêtes. Et je pense que Jésus savait bien qu'il ferait ce qu'il a fait. Il raconte son histoire, avec les conséquences pour Jésus, comme je l'ai dit. Mais Jésus lui demande aussi d'aller offrir les offrandes qui étaient demandées à ceux et celles qui étaient guéris de la lèpre. Cette précision nous permet de dire que Jésus a remis cet homme dans la vie religieuse et sociale d'Israël. Il le réhabilite religieusement et socialement. Il peut maintenant aller au temple, voir les sacrificateurs et apporter son offrande à cause de sa guérison. Il est inséré. Il est dans le circuit. Il n'est plus marginal. Il est maintenant là, dans la vie religieuse, comme les autres, parce qu'il a été purifié. On pourrait faire un parallèle aussi avec nous. Nous avons été réhabilités en Christ, pauvres que nous étions spirituellement, et remis dans la direction de Dieu, en relation avec lui et à son service. Il a été réhabilité. Et je pense que c'est là, nous, Église, un domaine dans lequel il nous faut encore travailler, l'accompagnement des personnes. Réhabilité. Leur insertion dans l'Église, leur accompagnement, pour qu'ils retrouvent la joie de vivre et la joie de servir. Nous avons accueilli dans notre église à Versailles une dame qui a découvert l'église par le site de l'église, et une dame, le premier entretien que j'ai eu avec elle, devant moi, elle m'a dit « Je suis indigne de me tenir devant vous. Tant le péché a gagné ma vie. » Et elle m'a commencé à me faire une liste de tout ce qu'elle faisait. J'étais obligé de l'arrêter en disant « Il y a des choses que je n'ai pas besoin de savoir. » Je suis là tout simplement pour vous amener à Christ qui pardonne, qui purifie, qui réhabilite. Et cette dame a été accompagnée dans l'église, malgré sa vie passée avant de connaître le Christ. Et dans 2 semaines, elle va se faire baptiser. Toujours la fidèle, intégrée dans l'église, accompagnée des personnes qui viennent à nous, qui ont besoin d'aiguillage, qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Tout cela demande du temps, de l'énergie, de la volonté. Mais telle est notre mission en tant que chrétien et en tant qu'Église. Jésus nous montre le chemin, il nous trace le chemin. Ce Jésus que nous adorons, l'expression de l'amour de Dieu le Père, ce Jésus qui a plaidé notre cause et qui nous a réhabilités, nous le suivons sur la voie de l'amour. Sommes-nous prêts à aimer jusqu'au bout, même si cela nous demande des efforts, car l'accompagnement demande des efforts, de l'organisation. Sommes-nous prêts à bousculer nos vies, nos agendas, pour pouvoir manifester l'amour du Seigneur? Nous qui sommes nés de l'amour, nous qui sommes des enfants de la croix où l'amour de Dieu s'est exprimé pleinement, sommes-nous prêts à sortir de notre zone de confort pour aimer? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous sommes donc appelés à aimer. Aimer peut coûter cher. Il y a un prix à payer. Sommes-nous prêts à le payer? Aimer a des conséquences heureuses, insoupçonnées. Ça coûte, mais quelle joie! Quand nous voyons les conséquences de l'amour sur nous et sur notre communauté, quand nous voyons des personnes réhabilitées, à qui on donne le goût de vivre à nouveau. Des personnes qui sont heureuses. Quelle joie! Les conséquences de l'amour sont insoupçonnées sur notre vie et sur la vie de la communauté. D'ailleurs, le texte nous dit que on venait de partout pour voir Jésus. Il y avait affluence. On voulait voir cet homme qui a aimé ce lépreux, qui a touché ce lépreux. On veut le voir. On veut être guéri aussi par lui. On veut l'entendre. Qu'est-ce qui caractérise notre vie de chrétien? Est-ce l'amour du Seigneur ou nos bons principes derrière lesquels on peut se cacher ou les impératifs de la société? J'ai pas le temps, j'ai pas les moyens, je ne peux pas, je ne sais pas. Tant de prétextes qu'on peut se trouver quand il faut s'engager profondément pour pouvoir aimer. Qu'est-ce qui caractérise la vie de notre Église aujourd'hui? Peut-on dire de notre Église, c'est une Église où les gens s'aiment, où les gens aiment les autres? J'étais pasteur de l'église d'Élancourt pendant 13 ans, donc c'est à l'ouest de Versailles, une église de 200 personnes à l'époque à peu près, Et chaque mois de janvier, j'allais rendre visite aux députés maires pour les civilités d'usage. Et je lui donnais soit un livre ou une Bible, et en prenant le temps de discuter. Et il m'a dit une année, « Décrivez-moi l'Église ». À l'époque, on était une vingtaine de nationalités. C'était bien riche en personnes, en culture. Et il m'a dit, qu'est-ce que vous faites? Ben, nous faisons le culte ensemble, nous chantons, nous prions ensemble, nous prions ensemble, nous mangeons ensemble, nous faisons des sorties. À l'époque, on faisait des sorties dans la forêt de Rambouillet pour nourrir la communion fraternelle. Nous avons des activités ensemble. Et il m'a regardé, il m'a dit, mais une vingtaine de nationalités, mais comment vous arrivez à vous entendre? Vous mangez ensemble? Les uns vont chez les autres, parce qu'on avait des groupes de maisons. Je dis oui, oui, mais comment vous arrivez à faire? Et je me souviens lui avoir dit, c'est grâce à Jésus-Christ et à son amour qui est dans notre cœur. Qu'est-ce qui caractérise notre Église en tant que communauté? Est-ce l'amour du Seigneur pour les autres? Ceux qui viennent ici, quels qu'ils soient, aimer amène vers Dieu en aimant. Nous glorifions le Seigneur. En aimant, nous répondons à ce que son cœur veut, car c'est un Dieu d'amour qui nous a tant aimés. L'acte de Jésus, en touchant ce pauvre, ce lépreux, l'a amené dans le désert pour prier. Pour prier, pour revenir vers le Père, pour retourner vers son Père, celui dont il est venu faire la volonté. Aimer nous ramène vers le Père, comme le Christ à la croix, dans ce geste d'amour extrême, va prier le Père. Il va s'adresser à son Père pour lui dire en finalité, tout est accompli. J'ai tout bien fait ce que tu m'as demandé de faire. J'ai accompli ta volonté, même si cela a été très dur. Je me suis rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Tout est accompli. Aimer nous ramène vers le Père qui nous demande d'aimer. Et qui est amour lui-même. Alors que le Seigneur puisse nous éclairer dans ce monde qui va si mal, dans ce monde où la précarité est grandissante, que nous, chrétiens, lumière d'amour, nous, Église, sentinelle de Dieu, témoignant de l'amour de Dieu, nous puissions vraiment aimer concrètement, afin que d'autres puissent connaître le Seigneur. En tout cas, telle est ma prière pour votre Église, qu'elle puisse grandir dans l'amour du Seigneur et que, par l'amour que vous témoignez les uns pour les autres, on puisse voir que vous êtes enfants de Dieu. Et que cet amour puisse attirer d'autres. Et chacun de nous, là où nous sommes, si le Seigneur touche notre cœur pour aimer telle ou telle personne de manière concrète, de manière coûteuse, quelquefois, que nous puissions répondre, « Me voici Seigneur, je suis prêt. » Prions. Notre Dieu, notre Père, aimer n'est pas toujours simple et facile. mais tu as mis ton amour dans notre cœur. Et tu veux que nous fassions connaître cet amour, que nous le déployions là où tu nous as placés, et que par nos paroles, par nos gestes, par notre attitude, on puisse voir que ton amour est en nous et que nous puissions aimer tout simplement. Donne-nous les bons mots, donne-nous les bonnes actions, les bons gestes pour aimer ceux que tu amènes à nous. Aide-nous, Seigneur, à nous aimer aussi les uns les autres en communauté, pour que cet amour que nous avons les uns pour les autres touche ceux qui nous entourent et qu'ils viennent à toi. Oui, Seigneur, par amour, tu nous as fait justice. Aide-nous à entrer dans cette justice en aimant les plus pauvres, les délaissés, ceux qu'on a abandonnés. Aide-nous, Seigneur, à les aimer en les accueillant, en les aidant concrètement, afin que ton nom soit glorifié et que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Amen.